de la guerre et des conflits donc, à l'économie. Donc, on passe de ces conflits de Solferino-Magenta donc, à l'évolution de la voie ferrée donc, et de la gare Saint-Jean-de-Maurienne. Donc, passant donc, historiquement de ce qu'on connaît un peu mal encore aujourd'hui dans le PLM Paris-Lyon-Marseille à la gestion future donc et à celle des voies ferrées, la SNCF. Pour ce faire, donc, nous avons fait appel donc, à Hervé Bottineau, lui aussi donc, enseignant d'histoire et spécialiste du transport. Merci donc Hervé de votre contribution.
Bien, alors après avoir voyagé avec les intervenants précédents sur Victor Emmanuel, je vous invite, selon la formule consacrée, à changer de train, correspondant sur le même quai en face, et à emprunter maintenant la compagnie Paris-Lyon à la Méditerranée. Donc on passe, donc Enricoté vous a parlé du chemin de fer Fesnes, je n'y reviens pas, ça a été un court intermède avant l'ouverture du tunnel du Fréjus, du Mont-Sny, comme en fait il est sous le Fréjus, mais on l'appelle du Mont-Sny. Et donc, après cette ouverture, l'État français donc rachète le réseau, la partie française du réseau du Victor Emmanuel, et confie l'exploitation et l'équipement à la compagnie Paris-Lyon à la Méditerranée. Ça n'a pas été évident au début, les débuts sont très difficiles, parce que, ben, Madame Côté vous l'a dit, il n'y a pas un enthousiasme délirant, le succès commercial n'est pas garanti, et il a fallu que l'État consente à la compagnie PLM, je vais l'appeler PLM, ça ira plus vite, il a fallu qu'il consente une période transitoire au cours de laquelle donc, la compagnie équipait et exploitait le réseau, mais c'était l'État qui finançait. Il n'y avait aucun coût pour la compagnie PLM. À charge pour elle de transformer, parce que c'est quand même l'objectif de l'État, de faire de cette ligne du Victor Emmanuel, qui certes avait le mérite d'être la pionnière, d'avoir réussi la traversée des Alpes, mais d'en faire une ligne internationale, donc une ligne de grande importance. Alors donc, période transitoire, l'État finance, mais le PLM prend son temps, on va dire, et vers la fin vers les années 1897, où arrive la fin de la période transitoire, les populations sont fâchées, et d'autre part, les élus aussi, ça va un peu trop vite. avancer un peu. Voilà, on peut s'arrêter là. Donc, les populations ne sont pas contentes parce que le réseau est encore mal équipé, et surtout, les élus sont encore plus mécontents. Et il y a un personnage qu'il faut quand même citer, c'est donc Antoine Perrier, qui est député de la Savoie, et qui va mener une charge virulente auprès du Parlement et du gouvernement afin de faire bouger les choses. Alors, de fait, la période transitoire va être terminée. L'État impose donc l'intégration du réseau au PLM. Ça, c'était le bâton. Mais la carotte, c'est que l'État continue à financer largement les travaux d'équipement qui sont nécessaires pour en faire une vraie ligne internationale. Alors, vous voyez sur la photo, là, c'est au pas du Roc. Et le premier point très important pour faire cette ligne internationale, c'est de doubler la voie. Hein, là, on est au début du siècle et déjà, donc, la voie est doublée. Ça va aller très vite. Hein, Antoine Perrier, c'est 1897. Et en fait, en 1903, la voie est doublée tout le long. Hein, donc, ça a quand même fait activer les choses. Dans le même temps, on a vu, il y a eu la rectification du tracé du côté de l'Isère et du pont des Anglais. Donc on a construit le pont royal. Hein, le PLM va construire tous les ponts que vous connaissez aujourd'hui, hein, les ponts, ce qu'on appelle les ponts de fer, donc c'est très important. Il va construire en dur les gares qui étaient au départ de simples baraques, à part celle de Chambéry et un peu celle de Saint-Jean, mais qui étaient des baraquements plutôt. Et puis donc le trafic se développant, et on va voir la construction des fameuses rotondes, celle de Chambéry qui vient de s'illustrer au concours des plus beaux monuments, mais aussi celle de Saint-Jean qui était en fait pas une vraie rotonde, hein, qui était un quart de rotonde, et celle de Modane, un peu plus importante que celle de Saint-Jean. Et tout cela donc, ça montre aussi, et ça va favoriser, et c'est aussi le résultat d'une montée en puissance du réseau du PLM. Beaucoup d'employés, mais il va falloir recruter beaucoup de monde. Les gens, donc, l'expression va devenir très populaire et elle perdurera après la nationalisation et le passage à la SNCF. Beaucoup de Morinais ont dit travaillent au PLM. Même quand il y a eu la SNCF, ils ne disaient pas on travaille à la SNCF, mais au PLM. Bon, ça, c'est une anecdote. Alors. Construction, mise à double voie, construction des gares, des rotondes, etc. Mais là-dessus, il faut quand même faire circuler des trains. Alors, au début, voilà donc là un aspect de la gare d'origine. Aussi. Là, on est toujours dans l'intermodal, vous voyez, même très intermodal, puisque du train, c'est soit la voiture hippomobile, soit la voiture automobile. Et donc, il faut faire circuler des trains, et pour ce faire, donc, au début, le PLM va utiliser des locomotives à vapeur, en les renforçant autant que faire se peut, mais ça n'est pas très satisfaisant malgré tout, et donc, il va y avoir une opportunité. Mais là, l'histoire est un petit peu complexe. On pourrait penser que, compte tenu du profil de la ligne, du trafic se développant, le PLM, tout naturellement, envisage d'électrifier la ligne, ce qui va se faire. Mais si effectivement le PLM va électrifier la ligne, là, notre ego de Savoyard va en prendre un coup. Ce n'est pas pour nos beaux yeux, ni même pour le trafic international. C'est tout simplement parce qu'il voulait faire de cette ligne une ligne expérimentale pour ensuite électrifier la belle ligne de la Côte d'Azur, où circulaient là, les trains de luxe. Et donc, vous voyez que l'électrification de la Maurienne, de la ligne de Maurienne, c'est un petit peu tendu. Logiquement, on pourrait penser que c'est tout simplement parce que le profil est difficile. En fait, c'était une opportunité. Le PLM a choisi cette ligne d'expérimentation parce qu'elle est courte, de Culoz à Modane, 135 km. Elle est pentue, bien sûr. Donc, sur la ligne de Côte d'Azur, c'est pas la montagne, mais malgré tout, c'est un profil et un tracé qui n'est pas forcément évident. Et puis surtout, n'oubliez pas qu'on est quand même encore au début du siècle. Il y a des possibilités hydroélectriques pour alimenter le réseau. Parce qu'un train électrique, il faut quand même l'alimenter. Il n'y avait pas EDF, donc il y avait deux solutions. Ou le PLM construisait ses propres centrales, ce que feront certaines usines par la suite, ou même avant. Ou alors le PLM achetait le courant, c'est ce qu'il a fait. Il a acheté le courant auprès de la compagnie Giraud, qui était basée à Ugine et qui avait des centrales hydroélectriques. Alors, on électrifie, mais encore faut-il savoir de quelle façon. Et c'est là qu'aussi la Maurienne va entrer un peu dans l'originalité. Vous le voyez sur cette photo de la gare de Saint-Jean, il y a des voies. Mais entre les voies, vous voyez une sorte de construction en bois dont les anciens vont reconnaître le système. Mais en fait, c'est ce que vous voyez au milieu des voies, c'est le fameux troisième rail qui alimentait les locomotives. Alors ça, c'est tout à fait l'originalité de cette ligne, surtout originalité pour une ligne importante. C'est des systèmes qui étaient pratiqués sur des lignes beaucoup moins importantes, des petites lignes. Mais là, donc, on va l'appliquer sur une ligne à gros trafic, qui a un trafic lourd. Voilà un exemple de la rotonde. Alors, avec un anachronisme, hein, il y a les photos de la rotonde, il n'y en a pas beaucoup. Bien entendu, la locomotive que vous voyez s'avançant sur le pont, elle ne date pas du PLM, hein, elle est beaucoup plus récente, même si elle vient déjà d'être réformée. La gare Modane, on a parlé des constructions de gare. Alors, la gare Modane, elle avait une belle marquise qui, malheureusement, a été détruite par le terrible bombardement de 1943. C'est aussi toujours moderne. La fameuse malle des Indes dont on vous a déjà parlé. Alors, je ne vais pas y revenir sur la malle des Indes, simplement sur deux points. Lorsqu'elle est devenue très opérationnelle, elle reliait quand même Calais à Brindisi en 48 heures, ce qui est quand même pas mal pour l'époque. Et petite anecdote, sur les wagons, vous voyez qu'il y a des guérites. Ces guérites, c'était pour les fameux serre-freins dont on pourrait parler à propos de la catastrophe de Saint-Michel. Et donc, il y avait un cheminot dans ces guérites. Bien sûr, c'était très inconfortable, il faisait froid, et puis il y avait des secousses, etc. Et donc, ces cheminots s'entouraient la tête d'un linge blanc. Et lorsque les gens, et sur les enfants, mais peut-être même aussi les adultes, voyaient passer ce train avec ces cheminots enturbanés, ils pensaient que c'était des maharajas, donc c'était la malle des Indes. Et donc, c'était devenu le train des maharajas. Voilà, ça c'est une anecdote. Alors on revient à notre électrification. On va passer les locomotives. Donc c'est les dernières locomotives à vapeur avant l'électrification. Voilà. Alors là, cette photo, elle est intéressante parce que vous voyez bien au premier plan le fameux troisième rail. Alors, ce troisième rail, il a été choisi par le PLM. Pourquoi ? Ben parce que d'abord, le PLM, ce n'est pas une compagnie qui aime prendre des risques. Elle a joué la sécurité, et la sécurité technique et économique, c'était d'installer le troisième rail qui avait été expérimenté dans des conditions difficiles sur la ligne de Valorcine, en Haute-Savoie. Donc là, ils étaient sûrs que ça marchait même l'hiver. Alors effectivement, là, un des avantages du troisième rail, c'est qu'il y a une grande surface de contact. Et puis vous voyez qu'il était protégé aussi des intempéries, mais aussi protégé pour la sécurité. Donc intéressant pour voir ce qu'était le troisième rail, pour ceux qui ne l'ont pas connu ou ceux qui ne s'en souviennent pas. Ensuite, vous voyez sur cette ligne la signalisation. C'est encore de la signalisation mécanique. Et puis surtout, vous voyez de ce qu'on va appeler les dinosaures du PLM. Alors, les dinosaures du PLM, ce sont les locomotives qui ont été commandées par le PLM pour circuler sur cette ligne. Alors, c'est des locomotives qui étaient beaucoup plus puissantes que les locomotives à vapeur, même si ça restait modeste. Une locomotive comme celle-ci, c'était l'équivalent de locomotives à vapeur en puissance et l'équivalent de 4 locomotives à vapeur en coût de revient, en prix de revient. Alors ces locomotives prennent le courant par des frotteurs qui sont situés à chaque extrémité. Elles sont assez amusantes parce qu'on y retrouve un peu l'héritage des locomotives à vapeur dans la mesure où il y a des essieux ou des bogies porteurs. Hein, donc par exemple, quand on va vous parler de la 161, ça veut dire un essieu porteur, 6 essieux moteurs et un autre essieu porteur. Celle que vous voyez en photo est également intéressante parce que vous voyez qu'on accède à cette locomotive par une plateforme avec la porte centrale. Et puis c'est une locomotive en deux parties. Elle est articulée, vous le devinez, on le verra plus avec une autre photo. Vous voyez là, cette photo est prise en gare Saint-Jean. Et vous voyez le passage en planche qui permettait d'aller d'un quai à l'autre. Il n'y avait pas le passage souterrain, donc il fallait être très prudent, et surtout il fallait être discipliné, parce que le moindre écart, vous voyez qu'il y a le troisième rail à côté, il ne pardonnait pas. Donc, pour revenir à ce troisième rail, 1500 volts. Donc c'est assez conséquent. Autre avantage du troisième rail, c'est qu'il permettait la mixité avec les locomotives à vapeur. Parce qu'en effet, les locomotives à vapeur encrassent les caténaires, et donc là, il n'y avait pas ce problème. Enfin, un avantage énorme, c'est qu'il n'était pas nécessaire de reprendre le gabarit des tunnels, ce qui aurait été un travail énorme. Et enfin, c'était la gestion de la gare Modane. Alors, on va Aller plus loin, là, on va... Alors là, un autre modèle, il y avait quatre séries, hein, en gros, à part les prototypes précédents, il y avait quatre séries, toujours une locomotive articulée, mais cette fois avec des capots à l'avant. Là encore une anecdote, une de ces locomotives a été bombardée à Modane, et on a récupéré la moitié de cette locomotive, et elle a été affectée au dépôt de Saint-Jean, où elle a des tâches de triage. Certains s'en souviennent peut-être. On passe. Alors, une autre de ces locomotives, de ces dinosaures du PLM. Là. Alors, là, on arrive à la quatrième série qui a été courte, et quatre locomotives de ce type. C'est ce qu'on a appelé les reines de la Maurienne. Ce sont donc des locomotives qui étaient beaucoup plus puissantes. Toutes les locomotives que vous avez vues avant, elles faisaient à peu près 2000 chevaux. C'était déjà deux fois une locomotive vapeur. Celle-là, elle fait plus de 5000 chevaux. À l'époque, elle était considérée comme une des plus puissantes du monde. Et donc, vous la voyez là, sortant de la rotonde de Chambéry. Il faut savoir qu'elle a été, elle a failli disparaître. Et elle a été sauvée in extremis par l'Association de préservation du matériel ferroviaire savoyard, qu'il faut saluer, et magnifiquement restaurée, même si elle n'est encore pas en état de rouler. On va passer. Voilà. Alors, à propos de, donc, du PLM, est-ce qu'on peut il faut quand même retenir que même si les débuts ont été laborieux, il a quand même transformé cette ligne en une véritable ligne internationale. Alors, on passe ensuite. Voilà un exemple de la gare Modane. Vous avez donc la locomotive du PLM qui est alimentée par le troisième rail et une locomotive italienne, elle, alimentée par caténaire. Si on avait retenu les caténaires pour la Maurienne, il y aurait eu des problèmes électriques insurmontables. On va passer. Voilà un exemple des cités construites par le PLM. Alors, celle-ci, c'est celle de la... quai Jules Poncé à Saint-Jean. Aujourd'hui, devant, il y a des immeubles plus récents, et puis là, il y a la rue du 8 mai. À l'époque, il y avait un étang. Elles existent toujours. Ces journées du patrimoine, allez les faire un tour dedans, enfin dedans, dans la rue. Non, on va s'arrêter là. Alors, donc, pour le PLM, pour conclure, il a réalisé cette grande ligne, mais il a aussi connu des événements extrêmement importants. Ici, vous voyez une représentation artistique de la conférence de 1917, qui était une tentative de paix séparée de l'Autriche, qui en fait a tourné à des négociations sur les revendications territoriales italiennes. Vous pourrez en savoir plus en consultant l'ouvrage de la Société d'Histoire et la communication de M. Pierre Genelletti. Voilà pour le PLM. Alors, pour faire le lien jusqu'à aujourd'hui, on va parler très rapidement de la SNCF. La SNCF a été créée en 1938, d'abord parce que les compagnies privées, on a parlé du PLM, c'est la plus importante, mais les compagnies privées accumulaient les déficits, les dettes. Et puis, il y avait un souci de l'État d'unifier, d'uniformiser, de rationaliser le réseau. Donc, en 1938, la SNCF est créée. Alors, depuis, donc, la guerre, bien sûr, c'est... La guerre, ça a été des destructions considérables, bombardements de Modane, les Allemands qui font sauter l'entrée du tunnel, tous les ponts, les ouvrages ont été détruits, là c'est pas la photo, voilà, on en est là à SNCF. Donc, par contre, pour la SNCF, il y a une période d'après-guerre qui va être une période extraordinaire, c'est l'apogée. C'est l'apogée, la période 45-1980. C'est la période des Trente Glorieuses. En 1957, c'est le traité de Rome et le marché commun. Le trafic va croître de façon exponentielle. La gare de Modane devient la première gare frontière de fret de France. Modane a tellement d'importance au niveau du fret qu'on est obligé de décentraliser, le territoire est exigu, d'utiliser également le triage de Saint-Jean, de Culoz, d'Ambérieu. Donc, vraiment un trafic en forte expansion. trafic marchandises, bien sûr, mais aussi trafic voyageurs. On voit passer en moyenne, et ils s'arrêtent, des grands trains internationaux, les Paris-Rome, Rome Express, Palatino, Paris-Naples, Lyon-Venise. Et vous avez ici en photo le fameux Monsny, qui était un autorail Trans-Europe Express. C'était une classification de haut de gamme. Et pour vous donner un exemple, ce train, à la fin des années 50, il reliait Lyon-Perrache à Saint-Jean en 2 heures, pile. Je vous donne l'horaire, 18h, Lyon-Perrache, 20h, Saint-Jean. Je vous mets au défi de trouver aujourd'hui un tel horaire avec notre train. Bon, donc c'était la grande époque. Un autre exemple, ben voilà, c'est la navette, la fameuse navette qui a transporté des dizaines de milliers de voitures, qui était très pratique entre Modane et Bardonecchia, aller-retour permanent. Très bon marché, être un peu provocateur à la différence de nos passages routiers actuels. Voilà. Alors, ça c'était la grande période faste, 1945-1980. À partir de 1980, tunnel routier du Fréjus, autoroute, et puis d'autres éléments plus généraux, le fret va décroître. Le fret va décroître, le transport marchandises est vraiment en baisse, en chute libre, et donc la gare Modane en plus va subir l'ouverture des frontières, voire disparaître toutes les formalités. C'est là vraiment un effondrement. C'est un effondrement. Au niveau du trafic voyageur, c'est pareil. Alors, le trafic voyageur, c'est un peu paradoxal. Bon, bien sûr, il y a la concurrence de l'avion, il y a l'autoroute, mais il y a aussi, paradoxalement, l'effet TGV. Parce que les premiers TGV, ce sont des TGV nationaux, et ils ne vont pas de l'autre côté. Donc, on va voir la desserte internationale complètement s'effriter. Aujourd'hui, vous savez combien il est difficile d'aller en Italie en train. C'est bien regrettable. Voilà. Alors, pour terminer, pour conclure, eh bien, on va encore changer de train. On va non seulement changer de train, mais on va changer de gare. Donc là, un instant quand même sur cette locomotive. Elle illustre la modernisation de la SNCF, puisque donc le troisième rail, bien sûr, dans les années 70, a été supprimé, le bloc automatique a été instauré, le triage de Saint-Jean a été entièrement revu, donc il y a eu de gros travaux de modernisation. Mais la ligne reste quand même peu performante, parce qu'il y a des points noirs. Il y a un point noir, Saint-André-le-Gaz, Chambéry, voie unique, sinueuse. Point noir, Saint-Michel, Modane, des rampes pas possibles. Troisième point noir, le tunnel historique du Monsny, qui n'a pas un débit, des conditions de sécurité qui permettent un débit suffisant. Donc, tout cela explique que le rail est autant périclité. Alors, pour terminer plus rapidement, on peut passer des photos, avec la SNCF, voilà un exemple de modernisation du poste d'aiguillage de Saint-Jean. Allons-y, assez vite. Des longs trains de marchandises dans des sites quand même impressionnants, entre Saint-Michel et Modane. Par tout temps, mais pas toujours par tout temps. Parce que, en 57, c'est la catastrophe. Plus de 4,5 km de voies arrachées, des triages inondés. Voilà le triage de Saint-Jean sous l'eau. Donc, des conditions très difficiles. Alors, quel avenir? Alors, pour cet avenir, je ne vous invite pas à changer de train, mais à changer de gare, puisque on va passer à la... On va quitter notre gare actuelle. Regardez-la bien, dans quelques temps, vous ne la verrez plus. Donc, on va changer de gare pour aller dans la nouvelle gare. Et comme l'histoire est malicieuse, aime bien se moquer, cette nouvelle gare, devinez, elle est en bois, comme les gares du Victor Emmanuel. C'est assez amusant, l'histoire est facétieuse. Bon, en plus, c'est, oui, je dis gare, mais c'est pas une gare, c'est un pôle. Ouais. On on ira prendre le train au pôle. J'ai pas compris. La langue française est pôle intermodal, transitoire. La langue française est riche. Vive Molière. Hein. Bon, j'espère que il n'y a pas un loup là-dessous, parce que je trouve bizarre cette appellation. Mais peut-être que quelqu'un pourra apporter des précisions là-dessus. Voilà, toujours est-il que le rail, pour terminer, le rail en Maurienne, que ce soit Victor Emmanuel, le PLM ou la SNCF, c'est une grande épopée. C'est une grande épopée, mais où il a toujours fallu jongler, et ça a été réussi la plupart du temps, entre l'objectif des opérateurs ferroviaires qui est d'aller d'un point à l'autre le plus vite possible, et l'objectif des acteurs locaux qui est de valoriser un territoire. Et ça, je crois qu'il ne faut pas le perdre de vue. Je lance un appel aux élus ici présents. Voilà.
Merci beaucoup.